Écoutez, bonsoir à tous, merci de votre présence. C'est avec grand plaisir que je vais ouvrir ce sujet et je vais vous proposer donc de faire un petit tour du monde du tourisme. Donc je voulais vous parler un petit peu de la genèse du tourisme et pour débuter, j'ai été chercher quelques petites définitions du tourisme et c'est très intéressant parce que dans le Larousse, vous avez l'action de voyager, de visiter un site pour son plaisir. Dans une autre définition donnée par l'Organisation mondiale du tourisme, vous avez un touriste est une personne qui séjourne plus de 24 heures, donc là il y a une donnée de temps, en un lieu autre que son environnement. Donc vous comprenez qu'il y a, on parle d'une nuitée, et donc là on est plutôt dans un mode de touriste, alors qu'au préalable il n'y avait pas de nuitée. Donc on pouvait parler de visiteur ou d'excursionniste. J'ai trouvé une autre définition très intéressante et qui est un peu plus précise. Le tourisme est un phénomène social, culturel et économique qui implique le déplacement de personnes vers des pays ou des endroits situés en dehors de leur environnement. Donc vous voyez, il y a plusieurs définitions et donc on peut très bien comprendre qu'il y a plus d'un mode de tourisme, mais il y a des tourismes. Si on va en arrière et qu'on va rechercher les origines historiques, en dehors des guerres, les premiers mouvements humains étaient liés à des déplacements commerciaux, religieux et culturels. Donc là, on ne parle pas de plaisir, on ne parle pas d'économie, on ne parle pas de plus de 24 heures. Donc, on ne va pas dire que c'est du tourisme, on va dire que ce sont les premiers déplacements. Plus tard, autour du XVIIIe siècle, le voyage initiatique donnant à travers l'Europe des jeunes aristocrates britanniques était appelé le Grand Tour. Là, on peut parler de plus de 24 heures de plaisir et d'économie. Donc, c'est le début du tourisme. Et c'est Stendhal qui francisera officiellement le terme « tourisme » en 1838 dans ses mémoires d'un touriste où il écrit son voyage de plusieurs mois en France. Ces tours ont donné naissance à ce qu'on connaît aujourd'hui comme le campagnonnage, les étudiants aussi qui se déplacent comme les Israéliens qui font le tour du monde après leur service militaire. Et on voit aussi Erasmus qui aujourd'hui donc, est quelque chose très à la mode pour tous les étudiants. Les premiers voyages organisés sont anglais. Le tourisme tel que nous le connaissons aujourd'hui émerge au cœur du 19e siècle dans les années 1840. C'est Thomas Cook qui crée des voyages organisés sur le territoire britannique pour débuter. Son activité se développe grâce à l'exposition universelle de Londres en 1851. Premier événement à susciter d'importants mouvements de population pacifique. En 1855, il organise un premier circuit touristique à travers l'Europe et en 1868, il lance les premiers coupons de pain. Une première croisière sur le Nil est organisée l'année suivante. Enfin, en 1874, il crée le chèque voyage. Donc vous pouvez comprendre que c'était quelqu'un de très visionnaire qui a beaucoup innové. À l'orée du XXe siècle, l'entreprise Thomas Cook & Son apparaît comme le leader mondial du tourisme. L'épitaphe de son fondateur, He Made Travel Easier, résume bien la visée d'un modèle appelé à faire date, celui des agences de voyage et des tour opérateurs, qui permet d'assembler différents types de prestations et de confectionner un produit touristique commercial. Thomas Cook est donc l'initiateur d'un voyage organisé. Il a donné naissance à ce type de voyage. Après la guerre, c'est la révolution des transports, le développement de l'automobile familiale, les premières caravelles, le réseau ferroviaire se développe. Et les congés payés ont, entre autres causes, permis le développement très rapide du tourisme. On commencera à parler du tourisme de masse. Pour se développer, les touristes avaient besoin de guides. Et c'est dès le début du 19e siècle qu'apparaissent les guides. Le Baedeker en Allemagne, le guide Murray en Angleterre, le guide Johan en France, qui est devenu par la suite les guides bleus. Le développement de l'automobile incite par exemple l'entreprise Michelin à devenir éditeur de cartes et de guides, en particulier du fameux guide vert lancé après la Première Guerre mondiale. À quelques décennies de distance, on retrouve le même souci de coller au nouveau comportement avec le lancement dans les années 70 du guide du Routard ou du Lonely Planet que vous avez sûrement déjà utilisé. Tant est bien que le terme Routard finit lui-même par désigner une catégorie générique de touristes. Ensuite, dans les années 70, on peut voir apparaître le premier système de réservation à distance, le GDS, le Global Distribution System, pour gérer en temps réel l'état des stocks de le transport collectif. Ces systèmes informatisés, à l'origine dédiés aux compagnies aériennes, s'étendront ensuite à l'ensemble du domaine du voyage, agences de voyage, hôtels, sociétés de transport, et permettront aux professionnels du tourisme d'opérer des réservations à distance. Aujourd'hui, on peut même réserver depuis son domicile pour des voyages à distance. C'est l'ère des OTA, Online Travel Agency. Pour en citer quelques-uns, vous avez le leader Priceline Group avec des sites comme Priceline.com, Booking.com, Agoda.com, Kayak.com, et là, on commence à toucher les comparateurs. Vous avez aussi Expedia Incorporated avec des sites comme Expedia.com, Hotel.com, Hotwire.com, Travelocity. Vous avez aussi Sab Holding avec le fameux Lastminute.com. Et ensuite, vous en avez d'autres comme Opodo, Voyage.sncf.com, Travel Genio et j'en passe. Ensuite, c'est la victoire du trafic numérique. Nous évoluons de l'information au comparateur de prix et du comparateur de prix au comparateur d'avis. Naviguez sur le web et le numérique collectera toutes vos données, ce que vous aimez, vos comportements ou l'état de votre santé, bien évidemment tout ce qu'il vous plaît pour voyager. Un site d'avis en ligne n'a de sens que si les avis y sont suffisamment nombreux. Dans ce domaine, c'est encore une entreprise américaine que vous connaissez tous maintenant, TripAdvisor, fondée en 2000, qui occupe aujourd'hui la première place mondiale avec 2,5 milliards de visiteurs uniques. Ça, c'était en 2014, ça a bien progressé. Qui vient de se faire une idée de leur future destination grâce à 200 millions d'avis et d'opinions en ligne d'autres voyageurs. Vous pouvez mesurer l'évolution technologique. Et Google dans tout ça. Google apparaît aujourd'hui comme un acteur capable de prendre la position la plus englobante. Après avoir développé Google Maps, Google Hotel Travel, ou Google Flight, Google Car, et être entré en concurrence directe avec les autres comparateurs. Plus en aval encore, la chaîne Google a racheté ITA, fournisseur de technologie de GDS, dont on parlait tout à l'heure. Si bien que tous les acteurs de l'e-tourisme s'interrogent pour savoir si Google franchira le pas de la transaction et de la réservation, auquel cas l'impact et les conséquences seront considérables pour l'ensemble du marché. Nous entrons dans l'ère de la géolocalisation. Et les Chinois dans tout ça? Eh bien, ça y est, commence à montrer le bout du nez, puisque Fosun, groupe chinois, premier actionnaire des CITS, premier réseau chinois d'agences de voyage, qui a racheté le Club Med et son expertise en matière de séjour touristique. Fosun est entré dans le capital de Thomas Cook, le fameux Thomas Cook, notre célèbre pionnier occidental. Et il y a encore de nouvelles influences, puisque aujourd'hui, dans le transport, nous sommes à l'ère du low cost. Nous avons aussi des sites d'économie collaborative, tels que Airbnb, des sites d'échange de maisons. C'est donc les prémices d'une nouvelle ère. Je voulais maintenant parler, vous donner quelques chiffres, juste quelques repères. Au niveau mondial, il faut savoir qu'il y a 1,2 milliard de touristes en 2016 dans le monde. Cela représente 83 millions de touristes en 2016 en France, ce qui est le numéro 1 au monde, mais seulement la quatrième place en termes de chiffre d'affaires. Je me suis amusé à relever, pour vous donner un ordre d'idée, des 10 premières destinations. Et je les ai comparées en nombre de touristes par rapport à la superficie et par rapport à la population. Voilà ce que ça donne. Le premier, c'est donc la France, en Europe. Mais comme je disais, qui n'est pas un premier chiffre d'affaires. Ce qui signifie aussi que beaucoup de gens traversent la France pour aller dans d'autres destinations. La France, donc, en Europe, bien sûr, comptabilise 84 millions, j'arrondis, hein, 84 millions de visiteurs pour une superficie de 643 000 m² et une population de 66 millions d'habitants. Viennent ensuite les États-Unis, donc les Amériques, avec 77 500 000 touristes, pour une superficie de 9 834 millions de mètres carrés. Et c'est intéressant parce que vous vous rendez compte que même si la France est petite, eh bien, elle prédomine. Et une population de 319 millions d'habitants. Vient ensuite en troisième position l'Espagne, en Europe, 68 millions de touristes, pour une superficie de 505 990 mètres carrés, pour 46 millions d'habitants. La Chine vient en quatrième position, donc vous voyez qu'elle progresse. 56 886 000 touristes pour une superficie de 9 597 millions de mètres carrés, population 1 357 000. Vient ensuite en cinquième position l'Italie, 50 732 touristes pour une superficie de 301 338 km², population 59 millions. L'Allemagne, J'abrège parce que c'est un peu long sinon. 7e Royaume-Uni, 8e Mexique, pour 32 093 000 touristes, superficie 1 964 000 m², population 120 millions. La Turquie vient en 9e position, 31 365 330, pour une superficie de 783 560 m², population 74 millions. Et enfin, je termine, 10e position, la Russie, en Europe. 31 346 touristes, superficie 17,1 millions de mètres carrés, population 143 millions. Donc, vous pouvez constater que l'Europe reste prédominante dans les destinations visitées. Quelques autres chiffres qui touchent directement les Hautes-Pyrénées, pour mémoire. Donc, dans les Hautes-Pyrénées, nous avons 277 649 lits dans les hébergements marchands et non marchands. Cela représente 16,6 millions de nuitées touristiques, 121,5 millions d'euros d'investissement touristique, 6 820 emplois salariés liés au tourisme, 12 stations de ski, 8 stations thermales, de nombreuses routes d'école, 4 grands sites. Autant dire que nous sommes dans un territoire plutôt riche et bien doté. Si on revient un petit peu en arrière et dire que je suis très heureux donc, d'être ici avec nos amis de Nouvelle-Aquitaine, puisque là, il faut le dire comme ça, si on revient dans le tourisme local, nous avons profité pleinement des déplacements de ces Britanniques qui venaient pour se relaxer, puisqu'ils venaient régulièrement donc, dans les Pyrénées pour des cures thermales, mais aussi pour aller à Biarritz pendant les périodes hivernales, pour le bien-être, parce qu'à l'époque, on n'allait pas nécessairement à la plage pour bronzer, et à Pau, et c'est pour cela que, pour le climat de Pau, que l'on connaît tous, qui est très agréable, et c'est pour ça qu'on a le premier golf en France, qui a été créé à Pau. Lourdes est arrivée en 1858 avec des apparitions, ce qui a fait un axe très intéressant et qui s'est auto-stimulé entre Biarritz, Pau et Lourdes. L'impact a été aussi porté par Napoléon III et Eugénie, qui eux-mêmes ont promu la destination de Biarritz, mais aussi des cures thermales et aussi de Lourdes. Mais nous avons eu des années faciles, puisque depuis cette période-là, eh bien, l'offre a toujours été inférieure à la demande. Et nous sommes restés dans une position de cueillette. Aujourd'hui, il nous faut passer à la chasse et créer de nouveaux outils. Pourquoi ? Mais parce que la concurrence, aujourd'hui, elle est mondiale, mais aussi globale. J'entends, si je prends toujours Lourdes, pour exemple, nous nous confrontons à de nouveaux acteurs, tels que Medjugorje. Medjugorje, pour savoir, est apparu, avec ses apparitions, lui aussi, le 24 juin 1981. Mais Lourdes peut être aussi en concurrence, de façon beaucoup plus globale, avec le Puy du Fou, qui a été créé le 13 juin 1977. Mais nous sommes aussi maintenant dans une globalisation, et il faut comprendre que Dubaï est aussi une concurrente à Lourdes. Dubaï a été créé à peu près dans les années 70. Je dis ça parce que je veux que vous réalisiez que tous ces sites n'existaient pas il y a 50 ans. Aujourd'hui, eh bien, ils viennent concurrencer l'ensemble de nos destinations. Comme je le disais, il y a de nouvelles évolutions, de nouvelles révolutions. Et suite aux attentats et au low-cost, eh bien, on se rend compte que les séjours changent. Nous avons maintenant des séjours plus courts, plus autonomes et plus nombreux. La marque est importante. On se rend compte que la puissance de la marque est supérieure à l'identité territoriale. C'est pour ça que je suis assez frustré de la nouvelle, du nom qui a été donné à notre région, parce que Occitanie, ça ne veut pas dire grand-chose. On a un massif magnifique qui s'appelle les Pyrénées, on a une mer juste à côté qui s'appelle Méditerranée. Nous aurions gagné du temps et de l'argent à appeler notre région Pyrénées-Méditerranée. Malheureusement, ça sera Occitanie, ça va nous coûter des millions pour donner une visibilité à cette région. Aujourd'hui, si je reprends Lourdes, eh bien, nous travaillons pour justement créer et positionner Lourdes comme une marque, parce que il y a des marques, et Lourdes a été positionnée comme les 20 marques les plus importantes en France, et c'est vrai que lorsqu'on vous parle de New York, Everglades, Himalaya, Loch Ness, Connemara, tout de suite, ça vous projette, et du coup, vous savez, derrière, ça crée l'envie. Et Lourdes, derrière, nous avons une étiquette, malheureusement, qui n'est pas que positive, alors que dès qu'on va à l'étranger, notre image de marque est superbe. En France, elle est un peu moins, parce que nous avons souffert d'une vision journalistique qui est ce qu'elle est, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, aujourd'hui, on a un potentiel extraordinaire et il nous faut changer cette vision. Et c'est pour ça que j'ai travaillé pour arriver à une nouvelle baseline, à une nouvelle signature, Lourdes l'inspiratrice. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de la marque, c'est tout un territoire et une économie qu'il va falloir décloisonner, parce qu'aujourd'hui, le tourisme touche tout le monde et tout le territoire. Les gens qui viennent sous différentes strates touristiques, on peut parler du développement de la filière vélo, et bien maintenant, le cycliste qui va aller sur l'école, il va aller s'arrêter non pas seulement dans les sites touristiques, mais il va aller aussi s'arrêter à la pharmacie, s'arrêter au supermarché, peut-être, voilà. Et tout le monde sur le territoire est impliqué. Et un des grands challenges aujourd'hui, ça va être de décloisonner tout le territoire et d'impliquer la totalité des gens du territoire à faire du tourisme, de l'accueil, du sourire et de l'orientation. Quelques points clés sur le choix des destinations. Il faut savoir et comprendre que le principal vecteur de choix de la destination, c'est le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, eh bien, il se met en œuvre avec essentiellement les médias et les réseaux sociaux. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le principal décideur du voyage, ça reste les familles.
Pas que du voyage.
Et pas que du voyage. D'ailleurs. Donc pour amener cette visibilité, aujourd'hui, un des atouts, c'est le site Internet. Mais là aussi, il y a une évolution. Les premiers sites Internet étaient des sites où il y avait beaucoup d'écriture. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait peu d'informations. Donc la première démarche, les gens étaient habitués à lire, donc on a donné beaucoup d'écriture pour que les gens prennent l'information par la lecture. Aujourd'hui, tout a changé. On est passé du pas assez d'informations à trop d'informations. Et les gens aujourd'hui sont dans un mode zapping, ils veulent aller vite. Et donc les sites ont évolué pour plus d'images et plus de vidéos. De même, les sites, maintenant, ce que les touristes attendent des sites, c'est beaucoup plus d'apport logistique et de produits. Donc les sites se transforment plus en façon boutique aujourd'hui qu'ils ne le furent autrefois. Et donc, les gens, quand ils vont sur un site internet, ils connaissent déjà la destination, ils en ont entendu parler, et ce qu'ils veulent, c'est avoir des stocks de projets, des créations de produits mis en catalogue. Donc là encore, il faut s'asseoir sur nos certitudes et il faut, encore une fois, se remettre en question, se repositionner et s'adapter parce que le tourisme évolue très très vite. Il faut revoir nos perspectives avec beaucoup plus d'humilité et une vraie volonté professionnelle d'aller vers les clients pour comprendre leurs besoins afin d'y répondre au mieux. Les nouvelles tendances, ce sont l'itinérance plus le phénomène expérientiel ou encore l'effet « wow ». Alors l'effet « wow », vous l'entendez très souvent. Maintenant, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc l'effet « wow », c'est un effet d'étonnement, de surprise, d'admiration, de sensation. Le touriste, il ne faut pas l'oublier, recherche des émotions et veut être acteur.